Un moment béni pour nous que d'être là pour la fête de Noël. Finalement, on n'en a pas raté, ni l'année dernière, ni cette année. J'espère qu'on pourra revenir l'année prochaine, si on peut encore être hébergé ici, parce que là, on est venu envahir Pascal et Arlette, vous vous rendez compte. De deux, ils se sont retrouvés à sept. Alors, plus un chien, plus un pigeon, plus un chat, bientôt un cheval peut-être, non ? En tout cas, voilà, c'était très plaisant pour nous d'être accueillis ici et de pouvoir partager avec vous. Vous nous manquez beaucoup. Il n'y a pas d'équivalent en Alsace de l'Assemblée évangélique d'Hazebrouck. C'est bien. Après, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas d'équivalent. Alors, j'aimerais juste vous montrer quelques photos, là, 3-4 photos de la maison. Ça marche pas ? Alors, j'ai dû apporter des... Ah oui, non, ça va marcher. Eh bien, non. On ne va rien vous montrer du tout parce que ça, ce que j'ai fait ce matin rapidement n'a pas fonctionné. Donc simplement pour vous dire que la rénovation avance, je voulais vous montrer des photos de la maison sous la neige que j'avais prises juste avant de partir. Voilà, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc il y avait aussi un terrain qui avait été mis en vente donc à côté de la maison, qui va nous permettre de faire l'extension de la maison. Donc, nous avons définitivement signé la vente de ce terrain le début décembre. Et donc, mi-décembre. Et donc, on dispose des fonds maintenant pour continuer les travaux. On voit la main du Seigneur là-dedans, parce que, je vous le rappelle, on n'a pas mis ce terrain en vente. On avait l'intention de le mettre en vente, mais c'est quelqu'un qui a frappé à la porte et qui nous a demandé s'il pouvait l'acheter. Donc on n'a pas été obligé de faire une prospection pour chercher des gens. Et la vente a été bien conclue financièrement. Et donc ça permet de vraiment de continuer les travaux. Et on voit vraiment comment le Seigneur agit dans ces choses qui sont... Voilà, il y a des gens qui sont des professionnels de ça, pas nous. Donc, on a besoin du grand professionnel avec nous pour faire cela. Voilà. J'aimerais vous partager quelque chose d'assez simple ce matin, qui m'a frappé dernièrement et qui tourne un peu autour de l'histoire de Josué quand il entre dans le pays d'Israël, et qu'il a cette rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel. Dernièrement, j'ai fait une découverte absolument extraordinaire. J'ai réalisé ce que ça signifiait que d'être un chrétien. Ça, c'est marrant parce que en fait, si je vous posais la question à chacun, peut-être vous me donneriez tous une réponse différente. Et pour certains, devenir chrétien, c'est changer de religion, par exemple. Hein, on était quelque chose, et puis on devient chrétien. Donc on croit à autre chose que ce qu'on croyait avant. Ou certains étaient athées, alors ils croyaient que Dieu n'existait pas, et tout d'un coup... Ils disent, Dieu existe. Alors ils deviennent chrétiens ou musulmans ou autre chose, mais ils changent de religion. Donc, chrétien, c'est, pour certains, c'est entrer dans une religion. Nous, en tant qu'évangéliques, on devient chrétien, même quand on sort du catholicisme, pour, n'est-ce pas, devenir évangélique. Et là, parfois, il faut se méfier, hein, de dire ces choses-là. Et puis on entend que chrétien, c'est être sauvé. Ou c'est de passer par le baptême. Et là, du coup, on devient catholique, un peu, hein, quand on dit ça. Parce que c'est pas ça, finalement, devenir chrétien. On sait que c'est important le baptême, mais ça fait pas de nous un chrétien. Et si on n'était pas baptisé un jour, qu'on est baptisé le jour d'après, finalement, quand on se regarde dans la glace, on s'aperçoit qu'on n'a pas changé. Et en fait, entre être, devenir ou être chrétien, c'est être en possession, là c'est ma définition, de quelque chose qu'on ne possédait pas avant. C'est-à-dire d'une espérance absolument extraordinaire qui fait que on n'a plus peur de la vie. On n'a plus peur de ce qui peut nous arriver. On n'a plus peur de l'imprévu. On n'a plus peur des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on a une espérance qui va au-delà de tout ça, qui est que s'il nous arrive quoi que ce soit, même si l'on meurt, eh bien, le Seigneur est là pour nous accueillir, nous recueillir dans un endroit qui est 1 000 fois meilleur, 10 000 fois meilleur, 1 milliard de fois meilleur que l'endroit que nous vivons aujourd'hui. Et donc, être chrétien aujourd'hui, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on entre en mission. N'ayant plus peur de rien, on entre en mission. On a quelque chose à accomplir. Alors vous me direz, oui, je sais, chacun ses dons, et puis il y en a qui deviennent des responsables, et qui ont le droit au micro, et puis d'autres, ils ne deviennent pas des responsables, et eux, ils doivent balayer. C'est la mission. Mais non, je ne parle pas de ça. Parce que je pense qu'un responsable doit aussi savoir balayer. Mais que celui qui balaye a la même mission que celui qui a le micro, c'est qu'il n'est plus appelé à s'occuper de sa propre vie et de son propre nombril au point de s'inquiéter, finalement, jour après jour, de ce qui va advenir de lui. Mais il est en mission pour les autres, pour ses voisins, pour ses amis, pour sa famille, pour ses enfants. Ça vous va? Voilà. C'était juste une aparté, en fait. Et parce qu'il n'y avait pas de moment d'exhortation ce matin. Donc voilà, ça c'était mon exhortation. Je profite, hein, tant que j'ai le micro. Alors, là, je commence maintenant la prédication. Un homme que certains nombre d'entre nous connaissent ici, qui s'appelle C.S. Lewis. C'est quoi? Si, c'est Clive. Lewis. Donc, qui est un professeur de philosophie, je crois, à Oxford. D'anglais? Littérature, en tout cas. Hein? Et qui est aussi à l'origine de bon, ces livres, donc, il y avait combien de livres? 4, 5, sur le 7, et qui s'appelle Narnia. Vous connaissez Narnia? On a fait des films maintenant, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Mais il a dit la chose suivante, et j'ai trouvé ça très très fort. Que ce soit le moi réel qui te parle, il s'adressait à Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, voici la prière que devrait précéder toutes nos prières, que ce soit le moi réel qui te parle et que ce soit le vrai toi à qui je m'adresse. Voilà, on pourrait juste s'asseoir là maintenant et réfléchir à ça pendant 1 heure. Et évidemment, ça rejoint un peu mon exhortation d'avant. Qui je suis en tant que chrétien? Qui je suis? Est-ce que j'ai juste adhéré à une foi, quelque chose qui me plaît bien, quelque chose qui me fait du bien à entendre? Ou est-ce que j'ai dépassé ça pour rentrer dans autre chose? Parce que un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose dans vos vies qui va venir vous questionner. On appelle ça les épreuves. On appelle ça les difficultés de la vie, les vicissitudes de la vie. On a des décès. On a des problèmes au travail. On a des problèmes d'argent. On a des problèmes de toutes sortes. Et ces choses-là viennent pour nous questionner. Certains disent, c'est Dieu qui me les envoie, je ne suis pas sûr, ça fait partie des choses de la vie. Et, en tout cas, elles ont une fonction, c'est qu'elles nous questionnent sur qui nous sommes. Parce que, dans ces moments-là, nous avons des réactions. Et la façon dont nous réagissons, eh bien, nous donne des informations sur qui nous sommes. Et donne aussi des informations aux gens qui sont autour de nous, sur qui nous sommes vraiment. Alors pendant des années, on a pu donner une façade, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient nous cogner là, quelque chose qui vient nous remettre en question, et boum, notre façade s'effondre. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Et c'est un peu ce que disait C.S. Lewis, n'est-ce pas? Que ce soit le vrai moi, celui qui enlève sa façade, qui te parle à toi. Et ce qu'on découvre alors, c'est que finalement, même si notre foi est réelle, même si nous avons vraiment une relation avec Dieu, il y a aussi chez nous une part de religiosité. Une part qui est, il y a un bon mot en anglais qui s'appelle fake, qui est fausse, qui est, voilà, c'est une copie. Une copie de quelque chose dont on sait que c'est vrai. On idéalise quelque chose et on essaye de vivre l'idéal de ce quelque chose. Mais quand les épreuves viennent, alors tout d'un coup, pouf, cette partie-là tombe. Et d'une certaine manière, on se découvre à soi-même la réalité de ce que nous sommes. Je pense que nous avons tous une dose de religiosité. Et peut-être que ceux qui ont des idéaux très élevés, comme moi, ont peut-être une dose plus importante encore que les autres de religiosité. On ne sait pas vraiment situer ce seuil, le Seigneur le sait. Et on ne sait pas absolument où est ce seuil si on n'a pas été tenté, si on n'a pas été confronté à, si notre foi n'a pas été éprouvée. Et quand notre foi est éprouvée, donc nous revenons à cette question. Mais qui suis-je réellement, Seigneur, devant toi? Qui suis-je réellement? On va, avant de voir Josué, on va voir un peu Pierre dans Matthieu 14. Pierre a été confronté à lui-même à un moment bien précis. Et c'est intéressant parce que on connaît l'histoire de cet homme très fort, avec un caractère bien trempé, qui aimait Jésus, qui était prêt à tout faire pour Jésus, qui avait un idéal qui était fort, et que cet idéal le poussait en avant. Au point que, lorsqu'il voyait Jésus marcher sur les eaux, eh bien, il s'est dit, sans hésiter, moi, je peux faire pareil. N'est-ce pas? Et donc, on va le prendre. Donc, Pierre voit Jésus sur les eaux, et Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur, verset 27. Pierre lui répondit, « Seigneur, verset 28, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens !» Pierre sort de la barque, sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau? Vous n'avez jamais essayé de marcher sur l'eau? Moi, j'ai essayé. Ah, on arrive. Allez, une seconde. Mais il faut courir très vite en partant du bord. Mais là, il est pas au bord. Et donc, voilà, il marche sur les eaux. Et c'est fabuleux. Il y a donc, d'une certaine manière, pour l'homme, une possibilité de remporter ce succès-là. C'est-à-dire de remporter ce défi de marcher sur les eaux. Et c'est fabuleux parce que c'est la religiosité de Pierre qui l'a tenu sur l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? La tempête est arrivée. L'épreuve est arrivée. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » N'est-ce pas? Il y a ce moment où finalement, on a une force là extraordinaire qui nous pousse en avant. C'est Christ qui a dit, « Viens. » Il est allé. Et lorsque l'épreuve est arrivée, patatras, il a coulé. Pierre a été confronté, la foi de Pierre a été confrontée. Pierre connaissait Jésus, il le connaissait bien. C'était un ami, il vivait des moments d'intimité, il dormait dans les mêmes endroits, il se déplaçait dans les mêmes endroits. Pierre était sous l'enseignement permanent de Jésus. Il était imprégné des paroles de Christ. Il l'aimait, il savait que Christ l'aimait. Et ça lui a donné une confiance extraordinaire dans la capacité de Jésus qui lui dit « Viens !» Et vous savez, des enfants dans les églises, ou les gens qui viennent depuis longtemps, peuvent avoir ce sentiment de connaître Christ. Et ils le connaissent, d'une certaine manière. Ils sont enseignés par lui. Ils reçoivent son enseignement avec joie. Mais Christ est toujours à l'extérieur. Il est toujours à côté. Il n'est pas à l'intérieur. Et donc, on vit un idéal. On vit ce Christ qu'on connaît. Et on se dit, oh, je vais l'imiter, je vais faire comme lui, je vais faire tout ce qu'il fait, c'est tellement parfait. Mais on ne peut pas assumer ça. On ne peut pas assumer ça. Et quand la tempête vient, eh bien, ça nous révèle à quel point nous sommes vides à l'intérieur. À quel point nous sommes juste incapables de gérer la situation qui nous vient là comme une furie. Et la peur nous prend, la peur nous saisit et nous rendons compte que nous sommes un chrétien sans mission. Notre seul objectif, c'est de nous sauver nous-mêmes parce que nous avons peur. La religiosité est suffisante en temps de paix. Lorsque tout va bien, lorsque tout baigne, alors le ronron de la religiosité suffit. Dès que vient l'épreuve, alors ça ne suffit plus. Pour certains, être chrétien, c'est aussi appartenir à un camp. n'est-ce pas ? Je suis dans le bon camp. Le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. Est le peuple choisi de Dieu, dirons-nous. Et on pourrait dire, il pouvait dire à l'époque, nous sommes dans le bon camp. Nous, en tant qu'évangéliques, on pourrait avoir l'outrecuidance de dire, nous sommes dans le bon camp. Et peut-être que nous y sommes. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit que d'être dans le bon camp ? Et c'est là où on va rejoindre Josué. Josué qui était le successeur de Moïse. Josué est sans doute un de mes favoris dans l'Ancien Testament. Il était celui qui était dans la tente de Moïse et qui n'en sortait pas. Il était celui qui servait Moïse. Et là, au chapitre 5, il a eu déjà la responsabilité de faire entrer, de faire traverser le Jourdain au peuple d'Israël. Ils ont traversé ce Jourdain à sec. Dieu a fait un miracle, a ouvert les eaux du Jourdain pour qu'ils puissent entrer à sec. Et là, ils ont commémoré, ils ont installé cet instant avec un autel, avec des pierres, un empilement de pierres qui était destiné à la postérité pour pouvoir dire aux enfants, voilà, c'est à cet endroit que les enfants d'Israël sont passés. C'est aussi là que le peuple d'Israël a été circoncis à nouveau. Pourquoi ? Parce que Israël venait de tourner pendant 40 ans dans le désert. Et Dieu était tellement fâché avec ce peuple qu'il avait dit, voilà, tous ceux qui ont désobéi, tous ceux-là vont mourir dans le désert. Il parle des hommes de guerre. Mais vos fils, les bergers, eux, entreront dans le pays. Et donc, ses fils n'étaient pas circoncis. Et il fallait que la circoncision intervienne à ce moment-là. C'est aussi le moment où la manne s'arrête. Vous savez, cette nourriture, c'est juste ce qu'il faut, quotidien. Cette nourriture qu'on ne pouvait pas accumuler. Cette nourriture qui servait pour le jour. Et le jour suivant, on allait rechercher la nourriture. Cette nourriture qu'il fallait, jour après jour, chercher. Eh bien, celle-ci s'arrêtait aussi pour laisser place à une abondance, comme il n'en avait plus connu depuis des années, des années, des années. Et donc, on est dans un moment très particulier pour Israël. Et il y a des enjeux spirituels énormes dans le ciel en même temps que sur la terre. Josué est sur la montagne et il voit les défis qui l'attendent, et notamment la ville de Jéricho. Cette ville qu'il va falloir atteindre, maîtriser, anéantir, parce que le peuple d'Israël était le leur, Dieu leur avait donné. Et Moïse est le chef d'Israël. Il est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de ces choses. Moïse est dans le bon camp. Il est dans le camp de Dieu. Et en stratège, il est là en train de réfléchir à ce qu'il va faire pour atteindre cette ville. Comme Josué, à partir du verset 13, chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué est dans le bon camp. L'ange, le chef de l'armée de l'Éternel, arrive au bon endroit. N'est-ce pas? On est content. Il n'est pas allé chez les autres. Il est venu au bon endroit. Ah, quand même, bon, ça va, on se sent rassuré, parce que si on l'avait vu arriver là-bas, on se serait dit, oula, qu'est-ce qui nous arrive? Non, non. Bienvenue, tu es au bon endroit, merci d'être venu chez nous. On en a besoin parce que ça risque d'être chaud. Peut-être qu'il n'a pas pensé comme ça tout à fait. Mais je pense qu'il a dû se dire, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que Dieu est avec moi plutôt que contre moi. Cependant, Josué se préparait à mener un combat. Josué, c'était son rôle que de s'occuper du peuple d'Israël et d'avancer avec ce peuple. C'était son projet. Les chrétiens ont beaucoup de projets. Les chrétiens ont des tonnes de projets. Et ils sont contents d'être dans le camp de Dieu et de mener des projets. Ils sont contents de savoir que Dieu est avec eux pour mener ces projets. Ils sont tout prêts à reconnaître l'action de Dieu dans leurs projets. Ils sont tout prêts à donner la gloire à Dieu dans leurs projets. Je pense que Josué était prêt à ça. Il était prêt à ça. Il était prêt à dire à Dieu, voilà, je vais combattre et c'est toi qui es ma force. Parce que Dieu l'a fait dans le passé avec Moïse. Ils ont combattu et Moïse avait les bras levés et voilà. Et tant que les bras étaient levés, eh bien, ils gagnaient. Et donc Dieu était avec eux. Et Josué avait ça en tête. Il avait les combats du passé en tête. Il savait comment Dieu pouvait agir. Et Josué était sans doute prêt à ce genre de situation. Mais là, il se passe quelque chose de particulier. Josué, qui est là et qui rencontre ce chef de l'armée de l'Éternel, je pense, était prêt à dégainer son épée. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes un responsable, si vous êtes un président de la République, et que tout d'un coup, dans un endroit où la guerre se passe, il y a quelqu'un qui arrive, vous êtes prêt à vous défendre, ou alors vous avez une garde qui est prête à vous défendre. Et là, la question c'est, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel » ? Il y a là un homme qui vient, qui a une mission. Josué avait une mission. Arrive un autre homme qui a une mission. Et manifestement, il ne répond pas à la question de Josué lorsque Josué lui pose la question « Es-tu des nôtres ?» Je disais avant, voilà, il est venu dans le bon camp. Mais en même temps, il y a cette incertitude. « Es-tu des nôtres ?» La réponse est non. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Il y a que je viens de la part de l'Éternel pour accomplir une mission. Josué peut penser qu'il s'agit de sa guerre. Eh bien, peut-être que ce n'est pas ça en premier lieu, la mission du chef de l'armée de l'Éternel. La mission du chef de l'armée de l'Éternel, c'est d'aller sur le terrain pour vérifier s'il y a des obstacles à lever. Pour vérifier si tout est en ordre pour le combat qui va venir. Et la première des choses que le chef de l'armée de l'Éternel vient voir, c'est si Josué n'est pas lui-même un obstacle au combat qui va devoir être mené. Parfois nous prions. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque nous avons nos attaques à nous, lorsque nous avons nos combats à nous, nous agissons comme des enfants de Dieu. Nous sommes dans le bon camp, n'est-ce pas? Et nous avons cette responsabilité. Et Josué l'avait plus que n'importe qui. Mais Dieu vient. Et la première des choses qu'il vient vérifier, si c'est pas nous-mêmes qui sommes l'obstacle à la réponse à la prière. Il ne s'agit pas seulement d'être dans le bon camp. Il faut aussi être l'ami de Dieu. Il faut que Dieu sache que nous sommes ses amis, qu'il est notre ami, que nous sommes vraiment avec lui. N'est-ce pas? Jésus, à de multiples reprises, a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ceux qui sont mes frères, ma sœur, mes sœurs, sont ceux qui font la volonté de mon Père. Il ne s'agit pas seulement de se placer dans le bon camp. Dieu veut s'assurer que nous sommes ses amis et que nous-mêmes, nous ne sommes pas l'obstacle à nos propres prières. On peut parfois passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, à prier pour des choses, pour demander que cela parte. Et Dieu vient et dit « Moi, je viens pour lever un obstacle. L'obstacle, c'est toi. Il faut que tu partes. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu me laisses combattre. » Alors, il lui dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Et Josué lui dit, « Non, mais oh, c'est à moi que incombe ce travail, c'est mon projet. C'est moi qui vais mener ça à bien, n'est-ce pas ? » Ce sont des attitudes que l'on rencontre. Et ce qui se serait passé si Josué avait eu cette attitude, je ne le sais pas. Mais peut-être que l'ange serait reparti et aurait laissé Israël se débrouiller tout seul. Peut-être que l'ange aurait combattu Josué pour malgré tout remplir sa mission de Jéricho, on ne le sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que Josué a eu la bonne attitude. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ça vous rappelle quelque chose ? Ça vous rappelle une autre histoire dans la parole ? Moïse. Moïse. Moïse qui était là avant Josué. Moïse qui était peut-être une sorte de père spirituel pour Josué. Donc Josué savait de quoi il s'agissait. Josué avait entendu cette histoire où Moïse, devant le buisson ardent, avait compris que le sol qu'il foulait était saint. Et Josué faisait là cette même expérience. N'est-ce pas ? Il ne s'est pas dit, moi je vais faire mieux que mes pères. Moi je vais développer tout ça à ma façon. N'est-ce pas ? Je vais trouver d'autres formes d'agir. Non, Josué s'est rappelé ce que Moïse avait vécu. Et lorsqu'il s'agissait de se soumettre, eh bien il l'a fait. Et Josué fit ainsi. Il laisse l'Éternel prendre le commandement et l'autorité sur sa situation et sur les choses qui allaient venir. Rendez-vous compte. C'est magnifique. Est-ce que nous avons besoin d'autre chose que de cela pour avoir une bonne vie ? Est-ce que c'est pas merveilleux que de pouvoir dire au Seigneur, waouh, c'est vraiment toi qui vas te battre à ma place ? C'est vraiment toi là qui prend le commandement, l'autorité, tout ça, et moi, ça... Vous savez que le jour où j'ai compris ça, c'est la paix qui est entrée dans mon cœur. La paix. Moi, j'étais le genre de personne qui pouvait faire des plans dans tous les sens, sur des années, très stratégiques. Aujourd'hui, c'est la paix. Est-ce que vous connaissez la paix ? Est-ce que vous voulez que je prenne un peu de temps pour vous en parler ? En fait, je préférais que ce soit vous qui veniez m'en parler. La paix qui surpasse toute intelligence, c'est la paix qu'on n'arrive pas à expliquer, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler. Je peux juste vous dire comment c'est. Et si je pouvais vous demander, si vous pouviez prendre ma place à certains moments, eh bien, je serais ravi de vous la donner. Mais en fait, je ne crois pas. Je vais la garder. Mais c'est magnifique. Et lorsque on se demande pourquoi est-ce qu'on va faire de l'évangélisation ou témoigner, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Mais attention. Attention, parce que ça signifie que effectivement Dieu doit prendre les commandes. Il faut que on lâche les choses. Et qu'on lui dise, oui, tu as l'autorité. Tu as le commandement. Le lieu sur lequel je me tiens est saint. C'est ton rayon. C'est toi qui fais les choses. Comme Josué, nous devons nous assurer que nous ne sommes pas nous-mêmes les obstacles pour Dieu. Que nous ne sommes pas nous-mêmes ceux qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. Je pourrais parler longuement sur le fait de s'examiner soi-même, de voilà, pour savoir si vous êtes dans la foi. Qu'est-ce que ça signifie ? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Qu'est-ce que ça signifie la foi ? au vu de ce verset. C'est Jésus-Christ en moi. Savoir si vous êtes dans la foi, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que vous ne soyez réprouvés. À moins que ce ne soit pas le cas. À moins que Christ ne soit pas en vous. Il est peut-être juste à côté. J'en parlais tout à l'heure. On peut avoir Christ très près et penser qu'il est dedans, tellement il est près. Hein, souvent, à l'âge de l'adolescence, on voit des jeunes comme ça, ils se connaissent tellement bien, ils sont tout le temps ensemble, ils sont tout le temps fourrés ensemble. On a l'impression presque, parfois, on dit son frère et sœur, ou frère et frère, sœur et sœur, parce que, voilà, ils se connaissent tellement, ils sont tellement intimement liés, ils font tout en même temps. Et on pourrait dire que l'un est dans l'autre et que l'autre est dans l'un, parce qu'ils disent les mêmes choses au même moment, parfois. Ça existe. Mais c'est Christ à l'extérieur. Je voulais juste vous passer ce message ce matin, que lorsque nous comprenons que parfois nous pouvons être nous-mêmes le défaut, le problème, pour l'accomplissement et l'exaucement de la prière, alors il nous faut revenir à la rencontre, enlever nos chaussures et dire: je m'écarte, je te laisse la place, c'est ta place, c'est toi le chef d'Israël, c'est toi le chef des chrétiens, c'est toi le chef de tout. Et moi, je suis d'accord d'être ouvrier avec toi, et pas pour toi. N'est-ce pas ? On a beaucoup de ces choses-là autour de nous actuellement. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurai d'autres choses, mais je pense que ça suffit. Et juste une chose. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas vraiment avec notre foi, n'est-ce pas ? Parler de Christ en vous, les choses qui sont accomplies avec la foi de Christ, avec la foi de l'homme. La foi de l'homme, ça n'existe pas vraiment. C'est une grande confiance en soi, mais la foi de Christ, et vous pourrez malheureusement rectifier dans vos Bibles les traductions qui sont faites à de nombreuses reprises. J'ai la liste ici, Romains 3, 22 et 26, Galates 2, 16, Éphésiens 3, 12, Philippiens 3, 9, Jacques 2, 1, Apocalypse 2, 13. À chaque fois, on parle de la foi en Christ. Mais c'est la foi de Christ. Dans tous ces versets. Malheureusement, les Bibles françaises traduisent ça très mal. Les Bibles anglaises font un meilleur sort à cette traduction. Heureusement, mais bon. Voilà, ça a une importance énorme dans la vie quotidienne du chrétien. C'est pas vous, c'est lui. C'est pas la foi que vous mettez en œuvre, c'est sa foi en vous qui agit. C'est tout à fait différent. Voilà, je vais m'arrêter là. Malheureusement, nous allons partir assez rapidement. On va peut-être discuter 5 minutes et ensuite on va malheureusement vous laisser. On espère vous revoir bientôt. Voilà, vous pouvez prier pour nous et prier aussi pour l'activité. Le travail en soi est bien. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés qui ne sont pas nécessairement liées que au travail, mais aussi à l'environnement de chacune des personnes qui travaillent avec moi, et où il y a beaucoup d'interventions à voir et beaucoup de soutien et d'aide à donner. Et voilà, on est. Si vous nous soutenez dans la prière, alors on est content. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la clarté de ta parole. Seigneur, tu nous enseignes pour nous dire que tu nous aimes et que tu veux aller au bout des choses avec nous. Tu veux nous donner une part importante dans les choses qui sont faites pour le royaume de Dieu. Mais tu souhaites que nous les fassions à ta façon, à ta manière, à ton rythme et sous ton autorité. Seigneur, nous te prions pour que ce matin, nous ne soyons pas du tout des obstacles à nos propres prières. Et Seigneur, que tu ne sois pas obligé de nous écarter avec force pour pouvoir accomplir tes desseins. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la rédemption, pour le pardon des péchés et pour le fait que même si pendant longtemps nous n'avons pas compris, eh bien les choses peuvent être changées aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette espérance magnifique que tu mets en chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions vivre dans la réalité de cette expérience, pas au-delà, mais dans la réalité de cette expérience et de cette espérance, dans le nom de Jésus. Amen.